Dans Matthieu, chapitre 26, verset 26. Et avant de lire la parole de Dieu, j'avais deux petites annonces. En fait, une où on va prier ensemble. Mais une annonce toute simple. Combien de personnes ici sont sur Facebook? Juste lever la main, je sais que ce n'est pas toute l'Assemblée. OK. Peut-être ceux qui sont sur Facebook, vous avez vu... j'ai une page personnelle, évidemment, là, mais on a ouvert une nouvelle page avec Oscar cette semaine. Et je vous dis tout de suite, je ne cherche pas des fans. C'est le modèle, la manière que c'est construit, c'est comme si on parle de fans de Yannick. Là. Moi, je suis un fan de Jésus-Christ, puis ça me suffit. Je n'ai pas besoin de fans. Maintenant, ce que je désire faire à travers cette page-là qu'on a ouvert, c'est d'aider l'Assemblée, de nous aider à se préparer pour le message de la parole. Et donc, on a mentionné, il y a quelques semaines, vous allez recevoir ceux qui sont abonnés par courriel. Évidemment, vous n'avez même pas besoin de ça, d'accord? Mais vous allez recevoir par courriel, en milieu de semaine, une annonce qui annonce le passage du dimanche suivant avec le titre. Maintenant, vous êtes dans une assemblée où on prêche par exposition. Vous voulez savoir dans quoi je prêche la semaine prochaine? Continuez à lire. C'est pas compliqué. Alors, à la limite, vous n'auriez pas besoin de pub. On est rendu dans Matthieu, on va voir ce matin Matthieu 26, 47 à 56. Vous voulez préparer vos cœurs pour les prochaines semaines, à moins qu'on ait un invité spécial, ce qui est le cas la semaine prochaine, on va voir M. Gonski. Normalement, on est en train d'avancer à travers ça. Mais de toute manière, en cours de semaine, vous allez recevoir donc une pub qui vous dit le titre de la prédication, qui vous donne même le texte à lire et puis qui vous donne les références du passage. Maintenant, ce que je vais chercher à faire à travers cette page-là sur Facebook, c'est de partager un peu avec vous mes questionnements lorsque je suis en train d'étudier. D'accord? Moi, je commence à étudier mon passage, quand tout va bien, une dizaine de jours à l'avance, et je me pose les mêmes questions que vous vous posez lorsque je suis dans le passage. Et des fois, je reçois de temps en temps des questions sur le passage, et je m'attends à en avoir aussi. Et donc, lorsque j'ai le temps de répondre et que je sais que ça ne sera pas fait dans la prédication, je vais le faire là. Pour vous donner un petit peu l'envie d'aller jeter un coup d'œil. Cette semaine, Jonathan Roy m'a posé une question sur le verset 52. « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Est-ce que Jésus est en train de dire qu'on doit être des pacifistes qui ne prendront jamais l'épée? Est-ce que c'est ça? Parce que ça a une forme proverbiale ici. Ça semble être un proverbe. Je ne traiterai pas ça ce matin dans la prédication. Mais j'ai pris le temps, par exemple, j'ai pris 10 minutes pour répondre à Jonathan sur ma page sur Facebook pour répondre à sa question là-dessus. Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions s'il y en a plein, et donc je ne vais pas nécessairement interagir directement avec vous, mais je vais recevoir des choses et je vais vous partager au fur et à mesure que je suis en train d'étudier. Alors, 2-3 fois dans la semaine, je vais faire une entrée sur cette page-là. Des fois aussi, il y a tellement de matière, hein. Faut que vous compreniez que je passe à peu près... 15-16 heures par semaine à préparer la prédication. Je passe à peu près 7-8 heures là-dessus à étudier le texte, à lire ce que d'autres ont écrit sur le passage. Et donc, il y a beaucoup de matière, beaucoup plus que ce que je peux vous donner dans une prédication. Puis, ce n'est pas un enseignement qu'on fait à proprement dit. Ici, on apporte une prédication, on veut se concentrer sur une idée. Mais donc, là, des fois, je vais envoyer de la matière, des choses, des citations que je ne pourrais pas vous apporter dans un message le dimanche matin. Le but que je recherche à travers ça, c'est que comme assemblée, nous nous réunissions pour entendre ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. D'accord? Ça, c'est la parole de Dieu. Et Dieu parle à son peuple aujourd'hui, principalement en nous penchant sur les Saintes Écritures. Et donc, je désire vous encourager à vous préparer pour le dimanche matin. J'aimerais que vous arriviez ici avec déjà le passage en tête. Déjà avec des questions, déjà avec des choses où vous dites « Ah, j'ai hâte de voir ce que Dieu a montré à Yannick cette semaine et comment il veut appliquer ça dans nos vies. » Et donc, c'est le but qu'on va rechercher à travers ça. On verra si ça vous est utile ou non. Si ça ne l'est pas, dans quelques mois, on arrêtera de le faire. Mais j'espère que vous allez simplement recevoir ces entrées-là et puis vous nourrir. Ceux qui n'ont pas accès à Internet, ceux qui n'ont pas accès à Facebook, ce n'est pas nécessaire pour être chrétien aujourd'hui. Vous savez déjà généralement le passage qui va venir dans la semaine qui suit. Prenez le temps de lire les Écritures. Je le mentionnais pour les jeunes, on arrive à l'été bientôt, les cours, le culte des enfants, ça va changer un peu et donc on va avoir plusieurs jeunes avec nous. Si des fois vous trouvez que moi je suis lourd, long et technique, imaginez vos enfants. Mais si vous preniez le temps le samedi soir de lire le passage avec vos enfants et de dire qu'est-ce que tu penses que le pasteur va faire sortir dans le texte demain matin? Qu'est-ce que tu penses que Dieu veut nous dire à travers ça? Et en ceci, vous allez être en train d'instruire vos enfants comme le Seigneur nous demande de le faire, d'être des pères qui instruisons nos enfants dans la parole. C'est bon? Alors, c'est un encouragement que je vous apporte, un outil qu'on veut mettre à votre disposition. L'autre annonce, vous l'avez reçue par courriel, c'est le décès de la mère de notre frère Jean Fauché, l'époux de Betty, Jean et Betty Fauché. Jean a perdu sa mère cette semaine. Ça a été un choc. Elle était quand même passablement âgée, mais disons que la santé de son père était beaucoup plus dégradée, donc il s'attendait davantage à ce que son père quitte plus vite. Et ça, vraiment, ça a été un choc. J'ai parlé avec Jean, j'ai prié avec lui au téléphone. Il était vraiment bouleversé. Et je veux vous demander de prier. Je veux vous demander de prier pour Jean, prier pour son témoignage dans la famille, prier aussi pour son père, qui est vraiment en perte d'autonomie, même en perte de lucidité. Et donc, c'est sa maman qui prenait beaucoup soin de leur père. Et donc là, les enfants sont en train de se tourner pour voir, moi, qu'est-ce qu'on va faire pour prendre soin de papa. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse aller tout de suite dans la prière et en même temps placer nos cœurs devant Dieu pour le message de la parole. Père, nous venons devant toi avec la ferme conviction que tu es présent au milieu de nous parce que tu habites, Seigneur Jésus, au milieu de ton peuple lorsque nous sommes réunis, Seigneur, d'une manière bien spéciale et particulière. Alors, on vient devant toi ce matin pour t'amener notre frère Jean, qui souffre, Seigneur, son cœur est brisé. Son cœur est brisé, Seigneur, d'avoir perdu sa mère. Il vient d'une famille unie, une famille proche, une famille où il a connu l'amour. Et toute cette incertitude sur la condition éternelle de sa mère, Seigneur. Je veux te demander, bon Père, d'étendre ta main sur son cœur. Toi qui es le Père de toute consolation, viens, Seigneur, et par ton esprit, viens consoler son cœur. Viens lui offrir une grâce particulière, Seigneur, dans les jours et les semaines à venir. J'aimerais te prier pour la famille, Seigneur, de Jean qui a besoin d'être consolé et qui a besoin d'entendre parler de toi. Qui a besoin de te connaître, Jésus. Dans ces moments de trouble, de fragilité, Seigneur, je te prie d'intervenir dans leur vie. Ouvre la bouche de Jean, de Betty, et envoie, Seigneur, d'autres missionnaires auprès d'eux. Place, Seigneur, tes messagers autour d'eux, là où ils habitent, alors que leur cœur est confronté à la mort. Viens leur parler de leur éternité. Père, j'aimerais te prier pour le papa de Jean, qui est en train de dépérir, Seigneur. Et la famille est inquiète et ne savent pas comment prendre soin de lui, diriger les choses. Je demande, Seigneur, de les conduire. Nous voulons, Seigneur, comme enfants de Dieu, tellement prendre soin de nos familles, tellement te représenter. Et Jean est loin de son père, puisqu'il est dans la région de Thetford Mines. Je te demande, Seigneur, de mettre ta main, de conduire, afin que son cœur soit en paix, de savoir qu'il honore ses parents en prenant soin d'eux. Père, nous venons devant toi ce matin pour te prier pour nous comme Église, comme assemblée de Dieu. Nous sommes ton peuple, Seigneur, et on a chanté, nous voulons te connaître, Jésus. Seigneur Jésus, j'aimerais te prier pour ceux qui ne sont pas ici ce matin, parce qu'ils se sont égarés, parce qu'ils sont en train d'errer loin de la bergerie, Seigneur, et ils ont besoin de te connaître là où ils sont. Ils ont besoin d'entendre ta voix, que tu envoies des messagers sur leur chemin. Ils ont besoin de revenir à la maison, Seigneur. J'aimerais te prier pour ceux d'entre nous qui sont retenus à l'hôpital, à la maison à cause des problèmes de santé, Seigneur. Accorde-leur ta grâce ce matin de vivre une communion intime avec toi, de vivre dans leur cœur, Seigneur, cette conviction qu'ils ont en eux-mêmes, cet esprit d'adoption, et qu'ils sachent, qu'ils vivent aujourd'hui que tu es leur Père. Et envoie-nous auprès d'eux, Seigneur, par un téléphone, par un appel, par une visite, par un mot d'amour, d'affection, Seigneur, qu'ils sentent que l'Église est avec eux, même s'ils sont retenus à l'extérieur. Je te prie, Père, pour ceux qui sont venus ici ce matin, le cœur lourd, avec des fardeaux, avec des déchirements en eux-mêmes, le sourire sur le visage, mais au milieu des sourires, le cœur peut être dans les larmes. Je prie, Père, de les aider à déposer leur fardeau à tes pieds ce matin. Certains d'entre nous avons besoin de te connaître, Jésus, dans une épreuve, dans une souffrance, dans une tentation, dans un combat, afin de pouvoir te suivre, Seigneur, que tu nous prennes par la main pour que nous marchions avec toi. Te suivre, Jésus. Enfin, Père, j'aimerais te prier pour ceux qui sont au milieu de nous et qui ne te connaissent pas, Jésus, intimement, qui ne t'ont pas encore donné leur vie, Seigneur. Viens bouleverser leur cœur ce matin et leur dire combien tu es un sauveur merveilleux. En toute chose, je te prie de me remplir de ton esprit. Seigneur, j'ai besoin que tu sois avec moi ce matin, avec nous. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Matthieu 26, verset 47, je vais vous lire le passage. Pour vous remettre dans le contexte, on est dans le jardin de Gethsémané. « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui à qui je donnerai un baiser, « c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi. » Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé, afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. La volonté de Dieu pour nos vies ne fera pas toujours notre affaire. La volonté de Dieu pour nos vies ne fera pas toujours notre affaire. Et nous l'avons vu il y a deux semaines d'une manière frappante, noir sur blanc, dans la vie de Jésus-Christ. D'accord? On parle de Jésus-Christ qui a toujours fait la volonté de son Père. Et pourtant, dans ce moment-ci, dans cette circonstance dans sa vie, la volonté de Dieu pour sa vie ne faisait pas son affaire. Vous allez me dire, c'est une seule circonstance, c'est vrai, mais ça ne faisait pas son affaire, je vous le garantis. Alors, si cela est vrai pour Jésus, le Fils de Dieu, qui a toujours fait la volonté de Dieu en définitive, à combien plus forte raison pour nous. La volonté de Dieu dans ma vie ne fera pas toujours mon affaire. Vous savez, parfois en jasant avec des gens, avec des personnes qui connaissent peut-être ou qui ne connaissent pas le Seigneur, on voit qu'ils ont une drôle de manière de concevoir Dieu, d'imaginer Dieu. On voit bien qu'ils se disent que, puisque Dieu est bon, dans leur idée, dans leur manière d'imaginer Dieu, Dieu ne leur demandera jamais de faire quelque chose qu'ils ne voudraient pas faire. Vous avez rencontré des gens comme ça? Leur vision de Dieu, si Dieu existe, c'est que Dieu est bon. Et c'est vrai qu'il est bon. Mais cela impliquerait automatiquement dans leur vie que Dieu ne leur demandera jamais de faire quelque chose qu'ils ne voudraient pas faire. Dernièrement, quelqu'un me disait, « Yannick, Dieu ne veut pas que je sois malheureux. » Et en fait, cette personne-là est en train de me dire ceci. « Voici, je ne veux pas passer par ce chemin-là. » Je n'accepte pas de passer par ce chemin-là parce que je serais malheureux si je faisais cela. Alors, un Dieu bon ne me demandera jamais de passer par cela. Par là, Yannick, tu comprends? À la lumière du passage qu'on a vu la semaine dernière, je pense qu'on peut dire ceci. Si Jésus avait pensé ainsi, il n'y aurait aucun espoir de salut pour les hommes. Si Jésus avait été animé de cette pensée-là, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémané, il n'y aurait aucun moyen de salut pour tous les hommes. Parce qu'à ce moment précis dans sa vie, la volonté du Père pour lui ne faisait pas son affaire. Mais pas du tout. Alors songez-y, Jésus-Christ n'était pas égoïste comme je peux être égoïste. Il n'avait pas un cœur rebelle comme je peux avoir un cœur rebelle. Jésus ne s'est jamais rebellé contre son Père. Mais malgré cela, la volonté de son Père à ce moment précis ne faisait pas son affaire parce que la volonté de Dieu pour lui impliquait de la souffrance, énormément de souffrance, beaucoup de douleur. Et si Dieu décidait de faire la volonté de son Père, si Jésus décidait de faire la volonté de son Père, il entrait dans la souffrance. Au verset 41, Jésus avait dit à ses disciples, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Verset 41, bien c'est ce que Jésus a fait. C'est ça qu'il a fait précisément. Il a fait ce qu'il disait à ses disciples de faire. Il se trouvait devant une tentation, la tentation de dire à son Père, « Père, non ta volonté, mais ma volonté. » C'est ça la tentation qui se présente à Jésus. On voit dans le passage qu'il y a deux volontés. Christ est humain, il est devant l'épreuve qui est là et il est devant la tentation de dire à son Père, « Pas ta volonté, Père, ma volonté, tu es bon, tu es un bon Père qui prend bien soin de moi et tu ne veux pas que je passe par là, je ne passerai pas par là, Père. » C'est la tentation qui se présente à Jésus. « Tu ne me feras pas boire cette coupe. » Et la tentation était bien réelle. Alors Jésus a veillé et prié. Jésus a veillé et prié son Père. Il a veillé et prié longtemps, plusieurs heures, devant la mort, la souffrance, le châtiment divin qui allait tomber sur lui. Jésus était tout aussi humain que nous, même s'il n'est pas pécheur. Et c'est dans la prière qu'il a résisté à cette tentation. Il a veillé et prié. Cette semaine, actuellement dans ta vie, dans votre vie, est-ce qu'il y a une situation où vous voyez quelle est la volonté ou quelle était la volonté de Dieu cette semaine, mais il y avait cette lutte à l'intérieur de vous-même? Voyant ce qui était la bonne chose à faire, ce que Dieu attendait de vous, il y avait un combat parce que votre désir, c'était de prendre cette direction-là. Est-ce que vous avez vécu une situation comme ça cette semaine? Ça peut être simple, hein? Ça peut être une opportunité de partager l'Évangile. Dieu vous ouvre une porte, est grande ouverte devant vous. Il s'agit juste de vous avancer, d'ouvrir la bouche, de vous afficher. Mais il pourrait y avoir un coût relié à ça. Et donc, il y a un combat à l'intérieur de vous qui dit, « No way, Osée, moi je ne m'en vais pas là. » Ça peut être une discussion qui commence à tourner mal au bureau, ça devient du commérage. Puis vous savez ce que Dieu attend de vous, de vous retirer de cette conversation-là, de mettre fin à ça parce que ce n'est pas digne de Christ. Et encore une fois, il pourrait avoir des implications liées à ça. Vous êtes le casseux de party, vous êtes le petit chrétien, le moralisateur. Et donc, il y a une lutte à l'intérieur de vous qui dit, « Non, ça ne me tente pas. » Ça peut être une décision à prendre. Vous voyez le chemin de Dieu et vous voyez ce qui brûle en vous de faire. Est-ce que vous avez vécu une situation semblable cette semaine? Comment est-ce que vous avez fait face à cette situation? Jésus-Christ a veillé et prié. Il est allé devant son Père. Et honnêtement, devant son Père, il a exposé son cœur. Il a répandu son cœur. Il a ouvert son cœur à Dieu. Et il a veillé et prié, jusqu'à ce qu'il ait la victoire. Jusqu'à ce qu'il ait la victoire. Jusqu'à ce qu'il puisse dire, « Je me suis réconcilié avec la volonté de mon Père. Ma volonté est réconciliée avec la volonté de mon Père. » Il a lutté jusqu'à ce qu'il soit en phase avec son Père et qu'il puisse dire, « Ta volonté, c'est ma volonté maintenant. » Ta volonté, Père, c'est ma volonté. Et il a fallu qu'il lutte dans la prière, qu'il veille, parce que cela ne venait pas automatiquement. La tentation de ne pas faire la volonté de Dieu était réelle pour lui. Mais il a eu cette victoire-là. Jésus-Christ a gagné cette victoire. Et dans le passage qu'on regarde ce matin, on le voit. Ça m'a frappé lorsque j'étais en train d'étudier le texte. On pense d'une section dans les versets 36 jusqu'à 46 où Jésus est fragile, il est angoissé, il est tourmenté. Puis lorsqu'on arrive dans les versets suivants, Jésus semble être au-dessus de la situation. Jésus est passif, il va se faire arrêter, puis pourtant, tu as vraiment le sentiment que c'est lui qui dirige toute la patente. Jésus-Christ a veillé et prié jusqu'à ce que sa volonté se soit réconciliée avec la volonté de son Père, jusqu'à ce qu'il puisse dire, « Ta volonté, Père, c'est ma volonté. » Et cela ressort du texte à travers ses gestes, à travers ses paroles, à travers la manière que Jésus va se comporter. Il est en train de dire à son Père, il est en train de dire, « Père, c'est plus seulement ta volonté que je vais faire maintenant, c'est la mienne. C'est ce que je veux. Je veux faire ta volonté et je vais entrer là-dedans. Par ses gestes, par ses paroles. Quel est le domaine dans votre vie, si vous êtes un enfant de Dieu, où l'Esprit de Christ vous a montré qu'il y a votre volonté et celle de Dieu actuellement? Et où il y a cette lutte. Et l'Esprit de Christ vous pousse à dire, « Seigneur, j'aimerais tellement être en phase avec toi, être réconcilié avec ta volonté, pouvoir dire, je sais qu'il y a des choses qui vont être difficiles là-dedans, mais c'est ma volonté maintenant, Seigneur. » Oh, qu'on puisse être comme ça en toutes circonstances. En toutes circonstances, lorsqu'on voit deux sentiers qui s'ouvrent parce qu'il y a une tentation pour nous d'aller vers un autre chemin que celui du Seigneur. N'est-ce pas? Qu'en toutes circonstances, on soit capable de dire à Christ, « Seigneur, ta volonté, pas la mienne, et j'entre librement, Seigneur, dans ta volonté. » Est-ce que ce n'est pas ça que vous désirez? Le bonheur se trouve là, mes amis. La joie, la paix, le repos se trouvent là. Christ a veillé et a prié pour trouver cette paix-là, d'être entièrement réconcilié avec la volonté de son Père. Et on le voit dans ses actions. Premièrement, Jésus accueille l'épreuve. Regardez avec moi le verset 46. Jésus dit, « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Et dans les prochains versets, on va voir dans l'attitude de Jésus qu'il accueille l'épreuve. Est-ce que je peux dire littéralement dans les versets qui suivent que Jésus embrasse son épreuve? As-tu le droit de dire ça? Judas vient vers lui. Judas incarne parfaitement son épreuve. Et Jésus va l'embrasser d'un saint baiser. Est-ce que ça, ce n'est pas accueillir, embrasser son épreuve? Voyez-vous, Jésus a combattu lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémané, dans la prière, et c'était une question de se soumettre à la volonté de son Père. Mais voilà, une personne apparaît devant lui. C'est une personne, son épreuve est incarnée dans cette personne qui est Judas. Jésus sait très bien que c'est quelque chose qui se passe entre lui et son Père, mais c'est très concret. Il y a une personne qui est là. Jésus avait tout donné à cet homme-là. Judas a eu le privilège de faire partie des 12, de voir la gloire de Christ, de faire des miracles, d'annoncer l'Évangile. Il a vu, il a goûté à tout cela. Et dans la personne de Judas, le Fils de Dieu qui vient s'offrir en sacrifice pour nos péchés, voit exactement la cause de sa crucifixion. Son épreuve, c'est une personne en chair et en os. Est-ce que ton épreuve, c'est une personne? Que Dieu te demande d'aimer? Bien, littéralement, Jésus-Christ accueille l'épreuve. Verset 47 et suivant, comme il parlait encore, « Voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs, par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le mon compagnon. » Ce sera une meilleure traduction. « Mon compagnon, ce que tu es venu faire, fais-le. » On dirait que Jésus est au-dessus de la situation. Lorsque je lis puis je médite le passage, dans son attitude générale, on dirait que Jésus est au-dessus de la situation. Un de ses proches, un de ses compagnons vient devant lui, c'est un traître. Vous comprenez, c'est un salaud qui vient devant lui. Jésus-Christ se laisse embrasser par cet homme-là. Il donne un saint baiser. Puis il lui dit, « Mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. » Il y a comme une espèce de détachement, on dirait, de l'épreuve qui est là. Puis ses disciples vont l'abandonner bientôt. Puis Jésus prend pas offense de ce qui se passe avec Judas. Jésus n'est pas troublé par le départ de ses disciples. Il est comme au-dessus de la situation, on dirait. Ma compréhension de ce qui s'est passé dans le cœur de Jésus-Christ, c'est que la bataille est déjà gagnée. La vraie bataille est déjà gagnée. Les souffrances sont à venir. D'accord? Christ va crier sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Les souffrances sont à venir, mais la bataille est déjà gagnée parce que la bataille a été livrée dans le jardin de Gethsémané. C'est au moment où il devait décider d'embrasser, d'accepter l'épreuve que le Père plaçait devant lui, que la bataille devait être livrée. Mais une fois qu'il a veillé, qu'il a prié, qu'il a lutté, qu'il a répandu son cœur devant le Père et qu'il a accepté la volonté du Père pour sa vie, Christ dit maintenant, c'est ma volonté. Les souffrances sont encore à venir, mais c'est comme s'il était au-dessus de la situation parce que c'est déjà accepté. Et vous avez peut-être déjà vécu cela. La décision est prise. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'entre dans l'épreuve. Je l'ai vu, je l'ai considéré, j'ai eu la tentation de l'éviter, de prendre un autre chemin. Je suis allé dans la prière, j'ai gagné la victoire dans la prière. Je suis en phase parfaitement avec mon Dieu. J'avance maintenant dans l'épreuve. Et Jésus-Christ accueille l'épreuve qui vient à lui, littéralement, par un saint baiser. Premièrement, il accueille l'épreuve et on ne trouve aucun ressentiment dans l'attitude de Jésus.
Deuxièmement, alors premièrement, il accueille l'épreuve. Deuxièmement, il refuse de prendre les choses en main. Comment est-ce qu'on voit que Jésus a accepté la volonté de son Père? Comment est-ce qu'on voit qu'il en a fait sa propre volonté? Il refuse de prendre les choses en main. Vous savez comment on veut prendre les choses en main lorsqu'une situation arrive devant nous et que nous n'acceptons pas cette situation? Notre réflexe, n'est-ce pas, c'est ça? C'est de prendre les choses en main. C'est correct, je m'en occupe. Il y a la possibilité que Dieu me demande de prendre ce chemin-là. Ça ne m'intéresse pas de le prendre. La première tentation qui vient, c'est de prendre les choses en main. Plutôt que d'aller dans la prière et de m'en remettre à Dieu, de chercher la face de Dieu, nous sommes tentés, plutôt que de faire confiance à Dieu, de prendre les choses en main, alors que Dieu me demande peut-être de patienter, de prier, de chercher sa face. Jésus a veillé et prié, il a accepté l'épreuve qui est devant lui. Alors quand les hommes qui sont avec Judas s'avancent et mettent la main sur lui, il y a quelque chose de physique ici qui se passe. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est une chose que quelqu'un se tienne devant moi puis qu'il ait des propos agressants envers moi, c'est une autre chose qu'il vienne et qu'il me prenne. C'est physique. Lâche-moi! Ça devient physique, la fin. Tu as ce sentiment dans ton corps, et on l'a vu, Jésus est humain. Il y a quelqu'un qui vient puis il ne s'en vient pas y faire une caresse dans le dos, mon ami. Il s'en vient et il le prend. C'est quoi la réaction humaine? Lâche-moi! Mais Jésus-Christ a veillé et prié. Et cette agression physique qui est en train de commencer, où il va sentir qu'il va être dépossédé même de la liberté de bouger, de s'enlever, de se tasser, de se retirer, de percevoir un coup, il est en train de perdre tout ça. Jésus-Christ refuse de prendre les choses en main. Parce qu'il a veillé, il a prié, et lorsque ces hommes viennent et que ça devient physique, qu'on va l'agripper. Je l'imagine, puis je vous avoue, non, pas du tout. Pas du tout. Continue, tu vas en manger une, copain. Il faut que vous me couchiez par terre. Ils n'ont pas eu à le coucher par terre. Et quand ils viennent et ils le saisissent physiquement, il ne réagit pas. Il s'offre volontairement. Il refuse de prendre les choses en main. Et quel contraste frappant avec ses disciples, tout spécialement avec un des disciples, parce que ceux-ci n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié. Vous savez, ça faisait des semaines que Jésus leur annonçait « ça s'en vient, je vais être arrêté ». Et Jésus les met en garde, vous allez avoir une tentation, les amis. Votre tentation, ça va être de prendre la poudre d'escampette, ça va être de prendre les choses en main. Vous allez avoir la tentation de ne pas accepter l'heure qui s'en vient pour moi à cause de ce que ça implique pour vos vies. Mais ils n'ont pas veillé et prié malgré tous les avertissements, malgré toutes les mises en garde. Ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas lutté pour s'en remettre à la volonté de Dieu. Alors, lorsque Jésus, qui est leur modèle, c'est le maître collabore. Qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. Non, du tout. Eux autres ne sont pas en phase avec Dieu. Ils ne sont pas allés mener cette bataille. Alors, au moment où quelqu'un intervient et vient toucher à Jésus-Christ, et Jésus collabore, se livre. Il y a un des disciples, et l'Évangile de Jean nous dit que c'est Pierre. Il y a un des disciples qui sort son épée. Je ne savais même pas qu'il se prenait avec des épées. Tu sais, c'est les chums de Jésus, je ne pensais pas qu'il y avait des épées. Mais non, il y avait une épée, il sort son épée. Bang! Il frappe le gars. Puis c'est impulsif, il va directement pour la tête. Dieu merci, le Seigneur l'a protégé. C'était juste l'oreille. Mais c'est physique. Et l'Évangile de Jean nous apprend que c'est Pierre. C'est ce même Pierre qui avait dit un tout petit peu plus tôt dans l'Évangile de Matthieu, « Seigneur Jésus, moi je suis prêt à mourir pour toi. Moi là, tout le monde pourrait t'abandonner. Moi, je ne t'abandonnerai pas. » C'est ce même Pierre aussi qui s'est endormi lorsque c'était le temps de prier avec Jésus. Alors ce Pierre-là, lui, c'est un battant. Il est prêt à prendre les choses en main. Lorsque l'épreuve arrive devant lui, Pierre, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire face à l'épreuve. Tassez-vous les prières. Il sort son épée, paf, il est prêt à frapper. Jésus, tasse-toi, je m'en occupe, moi. Il avait dit, il est prêt à mourir pour Jésus. Mais voyez-vous, des fois, on va être prêt à faire face à l'épreuve à la condition de prendre les choses en main comme on le veut. Comme nous, on veut. Comme nous, on veut. Qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus lui dit, « Non, 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 arrête ça. Range ton épée. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire face à cette épreuve-là. » Pierre est très héroïque ici dans ce qu'il est en train de faire. Hein. Il est en train de provoquer une garde d'armée. Vous comprenez, ça veut dire, je veux dire, à moins que Jésus nous sorte un autre passe-passe, on est fait les boys. Mourant pour Jésus! C'est héroïque ce qu'il est en train de faire là. C'est un battant, il est prêt à faire face à l'épreuve. À la condition de prendre les choses en main, de le faire à sa manière. Qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus lui dit non, Pierre? C'est pas comme ça que le Père veut qu'on fasse face à cette épreuve-là. Tu vas ranger ton épée, Pierre. Est-ce que Pierre est toujours prêt à mourir pour Jésus s'il faut faire face à l'épreuve sans prendre les choses en main, en laissant les choses entre les mains de Dieu? Non, Pierre est prêt à prendre les jambes à son cou, ses jambes à son cou, puis à se sauver. Voyez-vous, Pierre est démoli ici parce que Jésus ne se comporte pas comme un homme à ses yeux. À ses yeux. Mais si Jésus dit à Pierre, « Pierre, cette épreuve-là, il va falloir que tu la laisses rentrer. » Il y a de la souffrance qui est annoncée dans cette épreuve-là. Et pour y faire face, il va falloir que la souffrance rentre au complet. Il va falloir l'accepter, l'accueillir. Ça va faire mal, Pierre. Parce que c'est comme ça que mon Père va être glorifié. Est-ce que tu es prêt à m'accompagner? Range ton épée, Pierre. Jésus-Christ était prêt à ce moment-là à encaisser toute la souffrance. Et cela impliquait qu'il perdait le contrôle, qu'il n'avait pas les choses en main. Physiquement, qu'il n'avait pas les choses en main. Mais la victoire a été gagnée dans le jardin de Gethsémané. Il s'est soumis entièrement à la volonté de son Père. Et aujourd'hui, c'est sa volonté. À ce moment-là, à cette heure-là, c'est sa volonté à lui. Il est parfaitement en phase avec Dieu. Il accueille, il embrasse l'épreuve qui vient à lui. Et il refuse de prendre les choses en main pour faire face à l'épreuve. Comme humainement, ce serait tellement tentant de faire face à cette épreuve-là. Et je ne suis pas en train de dire que dans toutes les circonstances, Dieu nous demande d'être passif. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Ici, c'était le cas pour Jésus. Dans d'autres situations, Dieu nous demande d'intervenir, de faire quelque chose. Les chrétiens ne sont pas appelés à être toujours passifs. Mais si c'est ça la volonté de Dieu, si Dieu te demande d'aimer, de patienter, d'attendre, de subir quelque chose, quoi que ce soit. C'est Jean Calvin qui a juste fait observer l'ironie qu'il y a dans le passage ici. Jésus se tourne vers Pierre puis il dit, « Pierre, come on, sérieusement, ton épée. Tu ne penses pas que j'ai d'autres ressources un peu plus efficaces que Pierre avec son épée? » Une légion romaine était composée de 5 à 6 000 hommes en général. Et Jésus, c'est comme si Jésus est en train de lui dire, « Regarde, Pierre, 72 000 anges. » Je veux dire, une légion pour chacun d'entre nous, une pour moi, une pour vous autres, les 11 qui êtes restés avec moi. Sérieusement, j'aurais juste à me tourner dans la prière. 72 000 anges pourraient venir pour s'occuper de nous. Mais ce n'est pas ça que je veux, Pierre. Ce n'est pas ça ma volonté. Ce n'est plus ma volonté. Ma volonté, c'est de faire la volonté de mon Père. Range ça, puis arrange ton épée, copain. J'ai des ressources plus grandes que ça. C'est pas ça que j'ai choisi de faire. Jésus accueille l'épreuve, il refuse de prendre les choses en main. Ainsi, il s'en remet entièrement à la volonté de Dieu. Et enfin, il affirme, Jésus affirme qu'il veut se soumettre aux saintes Écritures. C'est intéressant, à deux reprises dans ce passage-là, Jésus parle des Écritures et que les choses doivent se dérouler ainsi parce que c'est écrit dans les Écritures, verset 54, regardez. Jésus dit, « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Verset 56, « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Quand Pierre veut prendre l'épée pour régler la situation, Jésus lui pose une question. « Pierre, si tu fais ça, comment donc s'accompliraient les Écritures? » On ne peut pas faire ça. C'est pas ça que Dieu dit dans sa parole. C'est pas ça qui est écrit. Donc, ce n'est pas une option. Voyez-vous, pour Jésus aussi, la Bible, c'est la parole de Dieu. Comme un espèce de paradoxe. Hein? Si vous êtes familier un peu avec le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, Jean commence son évangile en nous disant que Jésus est la parole de Dieu. Le Fils est la parole de Dieu lui-même, le Logos, la parole, mais il est incarné, puis là, il est le Fils, et donc il va se soumettre aussi à la parole de Dieu. Ainsi, pour Jésus, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ veut voir la parole de Dieu s'accomplir dans sa vie, lui aussi. Il est soumis, comme Fils de Dieu, aux Saintes Écritures. Difficile à comprendre un peu ce qui se passe là. Mais je pense que le point ici, c'est que Jésus veut que les choses s'accomplissent selon la parole de Dieu dans sa vie. Et si cela implique que le Fils de Dieu soit arrêté, voire même arrêté par des hypocrites qui font ça la nuit alors qu'ils auraient pu le faire n'importe quand le jour, si ça doit se faire aux mains d'un de ses compagnons qui s'en vient le trahir, un méchant salaud, bien soit. Je veux voir les Saintes Écritures s'appliquer dans ma vie. Il veut voir la parole de Dieu s'accomplir complètement dans sa vie. C'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu dit dans sa parole, alors c'est ce que je veux pour ma vie. Et c'est ça que Christ fait ici. Nous voyons que Jésus-Christ est parfaitement en accord avec la volonté de son Père et qu'il a fait de la volonté de son Père sa propre volonté parce qu'il embrasse l'épreuve, il l'accueille. Parce qu'il refuse de prendre ses propres moyens. Et troisièmement, parce qu'il veut voir la parole de Dieu s'accomplir dans sa vie entièrement, complètement. Jésus-Christ se soumet à Dieu pour sa vie telle que c'est exprimé dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est un merveilleux sauveur parce que tout ça, il l'a fait pour prendre le châtiment qu'il nous revenait à nous, sur ses épaules. Et Jésus-Christ est un maître merveilleux. C'est le maître à imiter, c'est celui à qui regarder, c'est celui de qui apprendre. Et il nous enseigne comment être ses disciples, comment marcher à sa suite. Non seulement il est le sauveur parfait, mais il est le modèle à suivre. Nous voulons apprendre de lui, apprendre à l'imiter. Lorsque nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes tentés de ne pas nous soumettre à la volonté de Dieu, mais à faire notre volonté à nous. Quelle est la situation que tu vis actuellement où tu as cette tentation-là? Dernièrement, où tu envoies une venir, tu dis, Seigneur, si c'est ça que tu fais, je ne suis pas sûr que je te suis là-dedans. Ah, des fois, c'est par la peur qu'on les appréhende, on les voit venir, puis on dit, si c'est ça le chemin que tu veux pour moi, pas sûr, je vais te suivre. Jésus voulait voir la parole de Dieu s'accomplir dans sa vie. Dans son cas, vous allez me dire qu'il y avait des prophéties spécifiques le concernant. C'est un petit peu particulier, c'est vrai. Mais Dieu nous fait connaître sa volonté pour nos vies, chacune de nos vies, à travers sa parole. Les Saintes Écritures sont là pour nous donner de l'intelligence et du discernement pour savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Je vous lis Psaume 119, 98 à 105. Écoutez ceci. « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours devant moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Et enfin, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ainsi, frères et sœurs, nous nous tournons vers les Saintes Écritures pour connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Les Saintes Écritures nous révèlent la volonté de Dieu de manière très concrète et pratique dans nos décisions. Par exemple, le 11 juin, je vais être avec la jeunesse et puis je vais enseigner sur les fréquentations. On va parler des fréquentations. Est-ce que Dieu parle des fréquentations dans les Écritures? Est-ce qu'il nous fait connaître sa volonté? Certainement. Certainement qu'il nous parle de cela. Dieu nous enseigne sur le mariage, le but de ces choses. La Bible nous enseigne comment choisir la personne avec qui je veux bâtir mon foyer, comment mes fréquentations devraient se dérouler. Et donc, lorsque je suis devant des décisions, je peux me tourner vers les Saintes Écritures pour connaître la volonté de Dieu. Je vais vers les Écritures pour savoir ce que Dieu attend de moi. Je veux connaître la volonté de Dieu, je me tourne vers la parole de Dieu, je m'en vais chercher spécifiquement ce que Dieu enseigne sur cette question-là. Et il se peut que je découvre dans mon cœur une autre volonté que la volonté de Dieu. Est-ce que ça se peut? Certain. Je veux dire, humainement, ce n'est pas toujours évident de faire la volonté de Dieu. Tu vois, je suis un bon chrétien qui veut généralement faire la volonté de Dieu dans ma vie, mais il y a dans une situation spécifique où il y a quelque chose que Dieu attend de moi, et ça, par exemple, ça ne m'intéresse pas. Généralement, je n'ai pas de problème avec Dieu. C'est cool, c'est des bons principes. Je veux marcher avec le Seigneur Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Mais à un moment précis, à un moment dans ma vie, dans une situation, la volonté de Dieu ne m'intéresse pas. Et Dieu me l'a fait connaître à travers sa parole. Et il y a toutes sortes de situations où, humainement, ce ne sera pas attirant de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne fera pas toujours notre affaire. Regardez, humainement, tout le monde a besoin de payer ses comptes à la fin du mois. Ton boss t'offre de faire une couple d'heures de plus en dessous de la terre. Je veux dire, on n'arrive pas. On n'arrive pas, puis je vais froisser le gars, puis on en a besoin. Est-ce que, humainement, ça ne peut pas être tentant d'accepter ça? Certain que ça peut être tentant. Je veux dire, j'ai mes enfants à la maison, j'ai mon épouse, on a des projets, on veut avancer. Puis là, j'ai cette offre-là qui est devant moi. Humainement, ça peut être tentant de faire ça. Mais je vais me tourner vers la parole de Dieu, puis je vais voir que dans les Écritures, Dieu me demande d'être honnête, d'être droit, et certainement que travailler au noir, c'est inacceptable pour un chrétien. C'est indigne. C'est indigne de Christ. Alors, est-ce que ça se peut que j'ai une lutte à l'intérieur de moi-même? J'ai un combat qui est à l'intérieur de moi. Parce que ma volonté de... Puis justifiée par tellement de bonnes raisons, hein, humainement. Mais il y a la volonté de Dieu aussi. Et là, j'ai cette lutte-là qui est en train de se vivre à l'intérieur de moi. Pourtant, si je me tourne vers la parole de Dieu, je vois ce que Dieu attend de moi. Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus-Christ quand la volonté de Dieu ne fera pas mon affaire? Qu'est-ce que j'ai à faire si je veux suivre Jésus dans des circonstances comme celle-là et imiter Jésus-Christ qui a fait la volonté de son Père? Je me tourne premièrement vers la parole de Dieu dans une situation précise pour connaître sa volonté. Si je veux voir la parole de Dieu s'accomplir parfaitement dans ma vie, je vais me tourner vers les Écritures et je vais aller voir une question précise, une situation où je suis confronté. Peut-être que j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'étudier le sujet avec quelqu'un d'autre. Je vais en parler à mon petit groupe, je vais le mentionner à mon petit groupe, je vais leur dire, regardez, j'ai cette situation-là au travail, est-ce que c'est acceptable, vous pensez, pour un chrétien? Aidez-moi, dirigez-moi vers les Écritures, j'ai besoin de vos conseils, j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de me faire une conviction devant le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, je vais chercher la volonté de Dieu. Et si je réalise que la volonté de Dieu ne fait pas mon affaire, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais veiller et prier. Je vais veiller et prier. Je vais aller devant mon Père, comme Jésus l'a fait. Puis je vais dire, Père, ta volonté ne fait pas mon affaire. Ta volonté ne me convient pas, Père. Je veux dire, c'est quand même ça que Jésus a dit, non? Et je vais aller répandre mon cœur devant le Père. Je peux inviter des frères et sœurs à venir le faire avec moi. Je peux le faire avec mon petit groupe, avec des amis. Vous savez que Jésus avait un petit groupe? Il les a rassemblés avec lui. Vous allez me dire, OK... C'était pas un super petit groupe, puis on dormit. Ça a l'air que le petit groupe de Jésus aussi était imparfait. Hein? Je viens de légitimer votre petit groupe qui est imparfait. Mais Jésus l'a fait. Il a ouvert son cœur à son petit groupe. Puis il leur a dit, les gars, j'ai besoin que vous priez avec moi, parce qu'ici, là, il y a un combat. J'ai la mort dans l'âme, les boys. Puis je suis en train de dire à mon Père, Père, il y a ta volonté, mais il y a la mienne. Puis ça ne m'intéresse pas de te suivre. Et je vais veiller, je vais prier, jusqu'à ce que ma volonté soit entièrement réconciliée avec la volonté de mon Père. Et vous savez quoi? Dieu le fait. Plusieurs d'entre vous pourriez témoigner de situations tellement difficiles que vous aviez à faire face et vous n'aviez pas le goût d'entrer là-dedans. Mais vous avez supplié Dieu de venir toucher vos cœurs et redresser votre cœur et vous aider à accepter ce que Dieu voulait pour vous. Et Dieu l'a fait. Dieu fait cela par son esprit. Amen. Dieu fait ça par son esprit. Je l'ai vécu des dizaines de fois. Et quand Dieu m'a donné la victoire, parce que la bataille se passe dans mon cœur, pas dans l'épreuve vraiment, quand Dieu m'a donné la victoire, qu'est-ce que je fais? Je me lève comme Jésus-Christ et j'entre dans l'épreuve. J'embrasse l'épreuve, j'accueille l'épreuve. C'est la volonté du Père pour ma vie. Je l'embrasse, je l'accueille. et je refuse de prendre mes propres forces pour me sortir de cette situation-là. Et je vous avertis tout de suite, il va y avoir des pierres qui vont venir autour de vous. Il va y avoir des pierres qui vont venir et qui vont dire, « Hey, come on! Prends les choses en main, mon ami! Dieu n'est pas là pour toi dans cette situation-là. » Vous savez ce que Jésus a dit à Pierre un peu plus tôt dans l'évangile de Matthieu? Il s'est tourné vers Pierre et il a dit, « Arrière de moi, Satan! » Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est les pensées des hommes. Et même si je n'ai jamais dit à un frère ou à une sœur, « Arrière de moi, Satan! » J'ai pensé à plusieurs reprises. Ça, c'est une pensée charnelle que tu m'apportes et je la refuse. Je ne veux rien savoir de ton conseil ici. Parce que ce n'est pas un conseil qui vient de l'Esprit de Dieu. Alors, je vous dis, il va y avoir des pierres qui vont vouloir vous dire, « Prends les choses en main, refuse ça. Dieu n'est pas là pour toi. Aide-toi, le ciel t'aidera. » J'accueille l'épreuve, j'embrasse l'épreuve, je refuse de prendre mes propres ressources, mes propres moyens pour m'en sortir. Et enfin, comme Jésus, je cherche à voir toute la parole de Dieu s'accomplir parfaitement dans ma vie, s'appliquer dans ma vie. Et vous savez quoi? On ne réussira pas à tous les coups. Je veux dire, les disciples se sont plantés cette fois-là. Finalement, les prophéties de Jésus se sont accomplies. Il est resté seul. Pierre a essayé de prendre les choses en main. Ça ne marchait pas. Il s'est sauvé. Il s'est poussé. Mais la beauté avec Jésus-Christ... La beauté avec Jésus-Christ, c'est que je peux me repentir. Et même si son petit groupe n'a pas été à la hauteur, quelques temps plus tard, Jésus va reformer son petit groupe. Puis il va leur dire, « Regardez les boys, moi je vous confie l'Église, je vais vous accompagner. » Alors peut-être que tu es dans une situation actuellement où tu souffres parce que tu as décidé de faire ta volonté plutôt que celle de Dieu. C'est possible de se repentir encore. C'est possible de se repentir parce que c'est possible de se repentir avec Jésus-Christ. Jésus est le seul qui a passé tous les tests. Parce qu'il est le seul qui était parfait et le seul qui pouvait s'offrir sur la croix pour nos péchés. C'est lui qui l'a accompli ça. La perfection ne vous est pas demandée. Mais la repentance, quand je m'éloigne du Seigneur, quand je me rebelle face à sa volonté, la repentance pour aller lutter dans la prière avec des frères et des sœurs. Alors, si tu es en train de vivre une situation comme ça, accroche un frère, une sœur tout à l'heure. Dis, j'ai besoin qu'on aille prendre un café ensemble cette semaine. J'ai besoin que tu pries avec moi parce que je suis coincé dans cette situation-là. Où j'ai cette tentation qui est là devant moi. J'ai un combat. Il y a la volonté de Dieu puis il y a ma volonté. Partage-le avec ton petit groupe. Jusqu'à ce que Christ te donne la victoire. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché et la victoire est en Jésus-Christ. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es un sauveur merveilleux parce que tu étais humain. Tu es un sauveur merveilleux parce que tu étais divin, tu es divin, tu es sans péché. Mais Seigneur, cette humanité que tu nous montres lorsque tu nous donnes accès à ce combat dans ton cœur, Seigneur, c'est tellement fantastique. Ça m'aide, Seigneur, à croire que tu peux comprendre ces luttes et ces combats que j'ai en moi. Parce que moi, je suis pécheur. Mais de voir ce déchirement, de voir cette victoire que tu es allé chercher là dans le jardin de Gethsémané et de te voir embrasser l'épreuve, Seigneur, ça me donne envie de t'imiter. J'ai le goût de vivre la sérénité que je vois en toi alors que tu avances vers la croix. J'ai le goût de vivre la confiance, la paix. J'ai le goût de vivre, Seigneur, cette obéissance parfaite à ton Père. J'ai envie de vivre cette liberté, Seigneur, de te ressembler, Jésus. Entrer et vivre comme quelqu'un qui est ressuscité avec Christ. Qui est libre du péché, libre de faire la volonté de Dieu. Et Seigneur Jésus, comme on l'a chanté, j'ai tellement besoin de te connaître dans des domaines précis de ma vie pour te suivre. Te suivre, Jésus, et t'imiter. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.